pour intégrer DO Agis Coppice et les autres. On les aide aussi à compléter leurs données dans Sherpa Romeo. Éventuellement, et ce n'est pas le cas pour toutes les revues, encore pour l'instant, il y a encore deux revues qui n'ont pas pris position par rapport aux licences qu'ils souhaitaient choisir, et je trouve que c'est quand même un aspect assez important. Alors, les nouveaux développements récents, donc c'est le passage à l'ODEL 1.0, un manuel de stylage, donc on a créé notre propre manuel de stylage, et donc jusqu'à présent, on envoyait toujours les éditeurs sur Open Edition, donc on va faire notre propre manuel de stylage avec un langage plus proche, plus Université de Liège, qui propose des écrans pop-up, etc., pour rendre plus personnalisé les échanges qu'on peut avoir avec les éditeurs. On a mis en place un dépôt électronique des articles avec OJS, donc on utilise maintenant les deux plateformes en parallèle, et qui permet d'automatiser les processus d'édition du dépôt jusqu'à la phase finale avant le dépôt sur Pop-Ups. Voilà un exemple manuel, et donc nous utilisons la plateforme Pressbook, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, et donc ça c'est la partie édition livre, et donc ici c'est un manuel qui est intégré dans cette nouvelle plateforme d'édition de livres. Ça c'est un écran de la plateforme OJS, et donc il y a pour l'instant deux revues qui sont intégrées, et voilà un exemple d'écran que l'on peut voir où on voit quelques articles qui ont été déposés par les auteurs et qui doivent être envoyés en lecture. Voilà. Alors les nouveaux développements qui sont en cours, c'est une nouvelle interface, donc une nouvelle charte graphique, une meilleure structuration d'informations, une recherche sur l'ensemble du site, les cahiers de pop-ups qui permettront de remplacer les lettres d'information. Voilà un exemple d'écran, donc il y a encore des couleurs qui doivent être ajoutées, mais là on va se rapprocher de la charte graphique de l'Université de Liège, et je pense que c'est quand même important au niveau de l'image et au niveau des fonctionnalités aussi. Voilà, et donc ça c'est les autres développements que l'on va prévoir. Avec Orchid également, Lox, qui sont des aspects importants. Voilà, donc à nouveau un problème de mise en page, je suis désolé. Et donc, comme retour d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que nos objectifs 2005 ont été totalement atteints et même dépassés, puisque le point de départ, c'était se focaliser sur l'Université de Liège. Et donc, on a encore une nouvelle revue qui vient de candidater, une revue publiée en France, et une autre revue qui est une revue franco-belge, qui est une revue des néerlandistes, qui est entre autres basée à Lille, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, qui va intégrer, donc ils ont déjà un premier fascicule qui est prêt à être publié. Donc ça, c'est un point tout à fait positif. Pour les éditeurs au sein de l'Université de Liège, c'est devenu un outil incontournable de diffusion de revues en libre accès. Donc il y a ces trois aspects-là. Et nous avons, au niveau de l'Université de Liège, un rôle légitime en tant qu'éditeur pour le numérique. Et donc, il y a d'un côté les presses universitaires de Liège, dont je suis également membre, comme éditeur. Et l'éditeur du numérique à l'Université de Liège, c'est la bibliothèque. Et donc, ça, c'est un aspect important. Et nous sommes reconnus comme tels. On est un petit peu arrivé par la bande, puisqu'on a proposé un certain nombre d'outils. Et puis, faisant preuve de nos compétences, ben, on est devenu l'éditeur du numérique incontournable. Et donc, on a aussi des compétences en matière de rédaction scientifique, de publication scientifique, mais on est surtout reconnu au niveau STM. Au niveau sciences humaines, c'est un petit peu des problèmes de chasse gardée d'enseignants-chercheurs qui estiment que ce sont eux qui sont les seuls compétents pour savoir comment rédiger un ouvrage en sciences humaines. Mais bon, là, c'est un autre débat. Voilà. Et donc, les points focaux que l'on a souligné, donc c'est évidemment la notion de service qui est offert aux auteurs, aux lecteurs et aux éditeurs et à la communauté universitaire dans son ensemble, et tout ce qui est open access avec cet aspect platinum, c'est-à-dire que c'est de l'open access mais sans API, donc ça, c'est un aspect tout à fait important. Et donc notre principal ennemi, et ça je pense qu'il faut quand même le citer, donc nous sommes, moi je suis... J'ai un certain nombre de rôles, dont la gestion de la plateforme. J'ai un informaticien qui, de temps en temps, est disponible pour moi. J'ai une infographiste qui est de temps en temps disponible pour travailler avec nous. Mais donc, c'est vraiment, Notre gros problème, c'est surtout le temps, c'est pas tellement les moyens financiers, c'est le temps pour réaliser les documents, pour rencontrer les éditeurs, donc je le fais quand j'ai le temps, pour systématiquement apporter des aides adéquates. Donc j'ai un certain nombre de mails que j'ai encore vu ce matin, auxquels je n'ai pas encore répondu, il faudrait que je prenne contact avec ces éditeurs, et pour réaliser les formations. Donc de façon récurrente, j'ai des demandes de formation, surtout depuis le passage à 1.0, où il y a quand même des petites différences au niveau du travail des éditeurs, et là, je n'ai pas toujours le temps de le faire. Donc ça, c'est vraiment notre gros problème. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir entamer à peu près 15 à 20 minutes de questions sur les deux présentations complémentaires et différentes qui viennent de vous être présentées. Qui est-ce qui se lance en premier ? Si on a bu le café, là, il faut... Ah, ça y est. Là-haut. Stéphane ?
Oui, Céline Vautrin, édition du Collège de France. C'est une question plutôt à Solène sur quels sont les services apportés par l'université, enfin sous quelle forme ils sont ces services ? C'est des budgets pour des prestations ou c'est du travail assuré par les presses de l'université ? Enfin sous quelle forme les services sont donnés aux revues, enfin sont accordés aux revues ? L'accompagnement est fait. C'est des moyens humains ?
Alors effectivement, c'est essentiellement des moyens humains. C'est-à-dire que les laboratoires, enfin, d'abord le laboratoire apporte un soutien scientifique pour garantir que c'est une revue justement qui n'est pas une pseudo-revue et qu'elle correspond à des axes de recherche de l'université. Il peut accorder des moyens matériels, par exemple prendre en charge des frais de mission, ce genre de choses, mais l'aide financière de l'université se limite à ça. Ensuite, les services d'accompagnement, ben, c'est, comme l'a expliqué Bernard, c'est-à-dire... recevoir les revues, il y en a une qui, là j'ai rendez-vous demain, ils hésitent entre passer sur Cairn ou Open Edition, ils veulent savoir c'est quoi la différence, à quoi ils s'engagent. Non mais c'est une question, ils ont le droit de la poser quand même. Donc voilà, on va décortiquer avec eux, en fonction de leur budget, leur situation, comment ils peuvent faire un choix et quelles sont les implications de ce choix. Donc ça c'est un accompagnement humain. Il y a ceux qui veulent avoir, qui ont besoin de moyens financiers. En fait, on va plutôt les orienter vers aide à la recherche de subventions. Donc, soit monter des dossiers pour la subvention INSHS, monter des dossiers pour de la numérisation, par exemple, Collex Percé. Donc, tout ce travail-là, on le fait en partenariat avec la bibliothèque universitaire qui est compétente sur une grande partie de ces sujets. L'accompagnement, c'est aussi comment postuler sur des plateformes, monter des dossiers. Pareil, quels sont les critères pour aller dans Scopus, pour aller dans le DOAJ. Donc ça va être, à mon avis, l'essentiel du travail. Et après, l'autre volet, c'est sur les aspects techniques. Donc il n'y a pas de secrétariat de rédaction parce que l'université n'a pas de personnel dédié à apporter. Et puis, ce serait bizarre de fournir ce service-là en centrale, complètement déconnecté des laboratoires, des enseignants-chercheurs. Donc là, je pense que c'est une réflexion qui est en cours avec la Maison des sciences de l'homme et l'INSHS pour voir aussi comment on pourra développer les postes d'édition, de secrétaire de rédaction. Et sinon, ce qu'on fournit, c'est un service de composition, mise en page, impression. Et puis, donc ça, c'est la direction valorisation de la recherche qui assume le rôle en fait, d'éditeur. Et la bibliothèque universitaire qui assume plus le rôle diffusion, qui va mettre en place une plateforme de diffusion. Voilà, donc c'est très peu de moyens financiers, surtout des moyens humains d'accompagnement et techniques.
Juste, moi j'ai une question, Solène, en complément de ça. À aucun moment vous avez pensé aller vers un service de diffusion, c'est-à-dire d'une pépinière ou de ce type-là ?
Si, après c'est... Pour moi, pépinière, c'est ce rôle de pôle éditorial, de pôle de services éditoriaux, avec éventuellement un outil qui serait une plateforme de diffusion. Mais pour nous, la plateforme, l'outil n'est pas au cœur de la réflexion. C'est plutôt les services d'accompagnement. Et puis, je précise aussi, du coup, ça peut être intéressant par rapport à ce qu'a dit Bernard, c'est que nous, on s'est un peu réparti les rôles avec la bibliothèque universitaire en disant que le rôle du SCD, c'était vraiment sur la diffusion. Donc, tout ce qui est justement plateforme et puis derrière référencement, voilà. Et puis que tout ce qui relève du processus éditorial en amont, ça relevait plutôt d'un service éditorial qui, chez nous, est hébergé à la direction valorisation de la recherche, qui pourrait être aux presses universitaires ou ailleurs. Mais ça, après, c'est l'histoire et ça s'est trouvé comme ça.
D'autres questions ?
Bonjour, Christine Rafsky du CIRAD à Montpellier. J'avais deux questions. Est-ce que vous pensez que de la même façon qu'il y a une fédération de petites revues sur des portails pour améliorer leur visibilité, leur qualité, il ne devrait pas y avoir une fédération entre portails aussi pour avoir un jour peut-être un portail européen de revues digne de ce nom ? Est-ce que ça vous paraît un projet envisageable ? Et puis, voilà, j'avais une petite question de détail pour Bernard Pochet sur l'utilisation d'OJS et de l'ODEL. Donc, si on a bien compris, vous utilisez OJS pour la gestion des manuscrits et puis l'ODEL pour la mise en ligne. Voilà, je voulais juste une précision.
Au niveau de la fédération, elle est en cours puisqu'il y a le réseau Repère qui a été créé à Lille, à Lyon en novembre-décembre 2018. Et donc là, on avance, enfin, on est occupé à travailler. Et donc, c'est en cours. L'objectif n'étant pas de créer une plateforme commune. L'objectif étant de fédérer et de réfléchir ensemble, voir ce qu'on peut faire pour travailler sur les bonnes pratiques, etc. Par rapport à OJS, donc je confirme, hein, donc c'est vraiment ces deux outils différents. Et donc, l'outil OJS est proposé aux éditeurs, ce qu'ils le souhaitent, qui souhaitent automatiser le travail plutôt que d'envoyer les manuscrits par mail, etc. Donc ici, c'est de proposer quelque chose d'automatisé pour le dépôt des manuscrits, et ça peut aller jusqu'à l'intégration totale de tout le processus éditorial, sachant que la plateforme de diffusion sera celle de Pop-Ups. Et donc, il y a un moment où on a terminé le processus éditorial, et donc l'article est prêt, il est balisé pour être balancé à ce moment-là dans Pop-Ups. Pour ceux qui connaissent le principe de l'ODEL. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos deux questions.
Après, sur la coopération européenne, c'est une bonne question. Hein. Elle commence à exister autour d'Opéra pour les ouvrages. Hein. Et à ma connaissance, pas vraiment pour les revues. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vienne pas.
Bonjour, Héloïse Maril du SCD de l'Université Paris Diderot. Donc, moi, je voulais vous demander, c'était par rapport à l'évolution de l'édition numérique. Là, on est sur des concepts de revues structurées avec des articles. Et donc, justement, je me demandais si dans vos relations, vous voyez venir cette évolution qui pourrait conduire à une déstructuration en fait, du concept de revue, peut-être pour aller plus vers de l'édition multimédia, des sites Internet. Et si oui, comment on pourrait répondre à cette évolution et qu'est-ce que ça modifierait dans la plateforme de diffusion, par exemple ?
Alors nous, on est encore très en amont du processus, donc on ne s'est pas encore posé de façon très concrète ces questions-là. Mais je sais qu'on a une revue en médiévistique où ils veulent faire des sortes de data paper, c'est-à-dire publier des corpus qui soit annoté et édité. Donc c'est à la fois un article et puis un corpus qui constitue des données. Donc je sais qu'on va travailler là-dessus avec eux parce que le responsable de cette revue est aussi responsable du master édition et il connaît très bien l'XML TEI. Donc je pense que là on a un cas où on va pouvoir travailler très finement sur la structuration des documents. Sur la plateforme de diffusion, c'est pas encore clair de comment ça va se traduire dans une interface type l'ODEL, on va dire, pour commencer.
Oui, ben nous, on a un certain nombre d'outils à notre disposition, et donc Si on reste dans le format revue, ça va être pop-up, mais il y a aussi la plateforme Orbi qui permet de publier tout type de documents. Et donc, ce sont déjà des services que l'on offre, mais je pense que ce genre de demande n'est pas encore arrivé. Mais systématiquement, on a des demandes qui sont un petit peu hybrides, et donc on oriente vers plutôt la plateforme e-publish de publication numérique, plutôt book. Et puis on a des demandes plutôt colloques ou plutôt revues, et donc là on les oriente vers la plateforme pop-up, mais il n'y a pas encore eu de demande suffisamment floue de ce type-là, de publication de la science en train de se faire, etc. Donc ça, on va y arriver, ça c'est sûr.
Et puis peut-être qu'on peut apporter l'expérience d'Open Edition. Nous, on a déjà depuis plusieurs années des revues. Je ne sais pas si le micro fonctionne. C'est bon. D'accord. On a déjà des revues qui publient des articles à flux continu, donc qui se sont émancipés de la notion de numéro. On a aussi certaines revues qui intègrent des fichiers audio ou vidéo dans les articles. Par contre, il y a un élément qui est important à prendre en considération, c'est est-ce que il s'agit d'un objet éditorial ? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une source ? Enfin, je pense que tout n'a pas vocation à être accueilli dans un article, et ce qui est intéressant, c'est plutôt de travailler sur l'interopérabilité entre ces différents types de contenus, comment on peut renvoyer de l'un à l'autre, etc., pour faciliter la lecture.
Une autre question ?
Oui. Oui, bonjour. Je suis là. Véronique Litaudon, ex-Marseille Université, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. J'avais une question à Bernard Pochet par rapport à l'utilisation d'OJS. Comment est-ce que les différents éditeurs acceptent d'utiliser cet outil ? Est-ce qu'ils l'acceptent volontiers ? Est-ce que, puisqu'on a affaire à des éditeurs avec des revues qui ont des pratiques éditoriales très différentes, et que OJS est un outil un peu de systémisation de gestion de flux éditorial, est-ce que pour vous, ça vous a demandé aussi beaucoup, beaucoup de développement individuel d'OJS pour répondre aux différentes exigences de ces différents éditeurs ou comités de rédaction? Voilà, c'est une question que je me pose.
Oui, donc l'utilisation d'OJS, donc nous utilisons pour une de nos revues, nous utilisons OJS 2.0. Je ne sais pas, ceux qui connaissent un peu OJS, il y a 2.0 et 3.0, avec une vraie révolution graphique, mais pas que entre les deux. Et donc nous utilisons OJS 2.0 depuis 6 ans maintenant, donc on connaît bien l'outil. La plateforme OJS 3.0, qui est celle que nous souhaitons associer avec Pop-Ups, a été mise en ligne en mois de juin. Donc c'est vraiment tout récent, il n'y a encore que deux revues. En communiquant avec les différents éditeurs, donc les deux revues sont deux revues que je gère moi-même. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup de soucis pour l'intégration. J'ai une troisième revue qui m'a demandé de leur créer un compte. Donc on est en train de faire les tests actuellement. C'est une revue sciences humaines qui compte se servir d'OJS uniquement pour le dépôt des articles. Et donc, pour eux, ils m'ont dit... OK, on va voir comment ça fonctionne pour le dépôt d'articles, et puis on configurera. OJS est quand même très, très souple au niveau de la configuration, au niveau des messages, au niveau des flux. Enfin, il y a certaines contraintes, mais elles sont quand même assez ouvertes. Et donc, pour eux, c'est uniquement le dépôt des articles. Une fois que l'article est déposé, ils vont le télécharger, et puis ils vont travailler comme ils ont toujours travaillé, sans utiliser l'envoi de mail automatique, etc., qui est vraiment un vrai plus. Oui, c'est vraiment, c'est à la carte. Et donc, on crée la revue sur OJS et il commence par utiliser uniquement le dépôt électronique qui, du point de vue de l'auteur, ne change rien. Donc, l'auteur va déposer son article sur les trois revues, il va le déposer de la même façon. Donc, il ne verra pas ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est ça qui est important aussi.
J'ai une question, moi, Bernard, un peu par rapport à la présentation de Solène. Deux choses compliquées pour Solène, c'est le statut juridique de la revue et la façon dont sont montées les revues au niveau juridique et le problème du modèle économique sur la diffusion libre accès. Pas de problème en Belgique sur ces deux points-là?
En fait, le point de départ, c'est l'open access. Et donc, vous connaissez peut-être un petit peu l'Université de Liège. Le mot open access et l'Université de Liège sont souvent associés. Et donc, la question ne s'est pas posée de cette façon-là. Et donc, d'abord, il y a eu une adhésion de 5 revues qui tournaient un peu au prou autour des bibliothèques. Et donc, c'était assez facile de convaincre les éditeurs. Une des revues devait disparaître s'il n'y avait pas le numérique. Et donc, ces 5 revues ont montré que ça fonctionnait, que le modèle économique était viable. Nous avons en Belgique des financements du FNRS, on a des financements autres que
c'est ça que je voulais entendre, oui. En fait. Quel était le financement derrière?
Il y a d'autres financements possibles. C'est aussi les labos qui financent, etc. Et à la limite, ce n'est pas notre problème. On donne des conseils aux éditeurs. On leur dit, attention, au mois de janvier, chaque fois, j'envoie un mail aux éditeurs pour leur dire, voilà, l'appel est ouvert pour les revues au FNRS. Ce n'est pas des sommes très importantes, hein, 5, 10, 15 000 euros, mais ça permet de fonctionner, ça permet de voir venir. Oui.
C'est-à-dire que vu d'ici, c'est pas mal déjà, mais bon...
Pour mes revues, je n'ai que 5 000 euros. Donc, mais il y a d'autres modes de financement. Il y a des financements institutionnels, il y a des financements de ce qu'on appelle chez nous la région Wallonne, la communauté Wallonie-Bruxelles, etc. Donc il y a différentes possibilités. Et donc si c'est au niveau du modèle économique, on ne s'en occupe pas, mais on alerte les éditeurs pour leur dire attention, l'appel est ouvert à cet endroit-là, etc. On ne remplit pas les dossiers avec eux, ils sont grands, ils se débrouillent.
Et sur le statut juridique, il n'y a pas de soucis. On a des soucis, nous, en France, hein, sur qui est responsable de la revue, oui. Qui porte la revue, qui est le directeur de la rédaction, qui est le responsable juridique, etc. etc. Enfin, voilà,
il y a encore des zones de flou. Et nous avons une juriste au sein de la bibliothèque qui travaille avec nous pour essayer de mettre au point un contrat qui puisse avoir l'aval de tous les éditeurs et pour arriver à mettre noir sur blanc, parce que c'est vrai que des questions remontent régulièrement, et puis là, on essaie chaque fois d'esquiver et de botter en touche, et donc on renvoie vers les facultés, on renvoie à d'autres endroits. C'est vrai qu'à un moment, il faudra quelque chose de plus solide, mais tant qu'on n'a pas eu de problème, on fonctionne comme ça.
Du coup, sur les contrats, comme on a quand même pas mal travaillé, on pourra peut-être partager au sein du réseau Repère le travail qui a été montré dans les deux ateliers hier, que ce soit pour les contrats auteur-revue ou pour les contrats autour des monographies. Mmh. Parce que je pense que tout le travail qui a été fait ici, s'il peut se partager, ça serait le plus largement possible.
On est preneurs. Hein.
Comme il y a beaucoup de gens qui ont travaillé longtemps, ça serait bien que ça serve au plus de monde possible. Une petite question?
Oui, j'avais une question. Sabine Arbeil, j'ai une question pour M. Pochet. Alors, je suis rédactrice en chef de la revue Sciences Eau et Territoires, une revue publiée par IRSTEA, un institut de recherche publique français en qui travaille beaucoup sur les sciences environnementales. Et est-ce que vous avez, depuis que le portail existe depuis 15 ans, est-ce que vous avez des outils statistiques particuliers pour suivre le lectorat en termes de... Est-ce que vous avez noté une augmentation de la visibilité des articles, et notamment en visibilité en Belgique, mais également à l'international, avec des possibilités de suivre qui télécharge, ou est-ce que c'est mieux maintenant qu'avant, pour notamment les petites revues?
Oui, donc on a un outil statistique qui permet de voir l'origine de la connexion, qui permet de compter le nombre de téléchargements par pays, etc. Donc, interne à l'université, externe à l'université, et quand c'est externe à l'université, par source. Et donc, ça, on propose une analyse assez fine. Il y a juste un souci, c'est qu'avec le passage à 1.0, l'informaticien a un petit peu zappé qui devait mettre à jour les URL. Et donc, on a perdu, en tout cas, ces statistiques ne sont plus en ligne, mais il m'a promis de les retrouver sur le serveur. Mais bon, comme. C'est un informaticien qui gère le site de la bibliothèque, qui gère Orbi, qui gère Pop-Ups, etc. Ça devrait arriver. Donc oui, nous avons des outils statistiques.
Et globalement, vous avez fait une étude un peu pour certaines revues. Est-ce qu'il y a eu vraiment des choses probantes qui pourraient justement inciter encore plus à adhérer à ce genre de plateforme?
Mais ça fait partie de nos outils de conviction, hein, tout à fait. Donc on montre aux éditeurs candidats qui hésitent encore à passer en full open access, etc. On leur montre les statistiques, on montre surtout des statistiques dans des revues qui sont proches de leur domaine, et en général c'est assez convaincant, puisqu'il y a systématiquement des augmentations dans les accès et dans les téléchargements.